Bonjour mes frères et sœurs, nous sommes encore vendredi et nous allons commencer une série d'études au sujet du Saint-Esprit. J'ai très à cœur de parler des choses du Saint-Esprit parce que j'entends des choses qui sont pas tout à fait correctes et je voudrais vous en parler, je voudrais vous expliquer avec la parole de Dieu, avec la Bible, afin que vous ne soyez pas trompés. Seigneur, je te prie que tu bénisses et que tu aides chacun d'entre nous, ceux qui écoutent et moi qui parle, afin que nous ayons le secours de ton esprit, justement, pour bien comprendre les choses et ne pas tomber dans des travers fâcheux. Merci Jésus. Amen. Alors, on va commencer par lire 1 Corinthiens 12 à partir du verset 1. En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Voyez, Paul avait déjà ce souci lui aussi. Vous savez comment, lorsque vous étiez étranger au peuple de Dieu, vous vous laissiez irrésistiblement entraîner vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous déclare, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est maudit ». Personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Et là, il donne une liste de 9 dons, et nous allons parler de cela dans cette série que je commence aujourd'hui. Alors, c'est une étude au sujet des dons, des services et de la diversité des actes de l'Esprit au travers de nous, auxquels tout chrétien peut aspirer. Je dis bien tout chrétien peut aspirer. Alors pour bien comprendre cela, il faut avoir premièrement un bon esprit de synthèse. Les gens du Moyen-Orient n'ont pas la même façon de penser que nous. Il faut se mettre ça dans la tête et dans le cœur. Voyons ce qui est dit à la fin de ce chapitre 12, qui nous parle justement des dons et du service et toutes ces choses. Il est dit, aspirez au verset 31, aspirez aux dons les meilleurs, je vais encore vous montrer la voie par excellence. Et là, point, et ils ont mis le chapitre 13. C'est dommage qu'ils ont coupé ça, parce que c'est la voie par excellence que l'apôtre Paul veut nous montrer. Quelle est cette voie? Eh bien, vous savez bien ce que c'est qu'un Corinthiens 13, c'est magistral, c'est l'explication de ce que c'est que l'amour selon l'Esprit de Dieu. Bien, Paul parle de cette voie tout de suite là, et il va nous montrer cette voie par excellence. C'est la voie de l'amour. Tout le chapitre 13 nous parle de cela, de l'amour. Or, Paul dit que l'amour est la vraie voie par excellence qui permet de manifester la diversité de services, la diversité des dons, la diversité des actions dans l'Église en Jésus-Christ et pour tous. On n'exerce rien sans amour quand on est dans le corps de Christ, quand on est en Jésus-Christ. Quand on est né de nouveau, on fait tout par amour. Je prends un exemple flagrant. Si vous n'aimez pas les malades, si ce qu'ils vous racontent vous ennuie, si l'odeur de certains malades vous gêne, si vous n'avez pas de patience avec eux, si vous n'aimez pas entrer dans les hôpitaux parce que ça sent bizarre, etc., etc., vous ne pourrez jamais manifester quoi que ce soit de spirituel, de surnaturel pour eux. La voie par excellence pour apporter la guérison, c'est d'abord l'amour, il faut aimer les malades. Un autre exemple, si vous jugez tout le temps les autres, si vous condamnez les pécheurs, si vous condamnez les chrétiens qui ne marchent pas droit, vous ne pourrez jamais manifester le discernement des esprits parce que vous êtes superficiel, vous jugez. Vous êtes une personne qui juge. Alors vous pensez que vous discernez les esprits, pas du tout, c'est un esprit de jugement que vous avez. Et vous jugez tout le temps vous cancanez, vous êtes charnel, vous êtes une véritable mégère au masculin ou au féminin, une langue de vipère. Donc, vous n'empruntez pas la voie par excellence, vous comprenez? Vous voyez ce que je veux dire? La voie par excellence, c'est d'aimer. Maintenant, il y a une chose que vous devez savoir au sujet du verset 13 du chapitre 12. On va le lire. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps et nous avons tous bu à un seul esprit. Maintenant, il y a une chose que vous devez savoir. Cela, ça a été traduit par des théologiens, soit catholiques, soit protestants, qui ne comprennent rien aux choses de l'esprit. Ce sont des linguistes, ce sont des chrétiens, charmants, tout ce que vous voulez, mais ils ne comprennent pas les choses de l'esprit. D'ailleurs, très souvent, ils ne savent pas s'il faut mettre une majuscule à esprit ou une minuscule, parce qu'ils ne savent pas s'il est question de l'esprit de Dieu ou de l'esprit de l'homme. Et comme beaucoup de personnes aussi, ils mélangent l'esprit, l'âme. Bon, enfin, ce sont des traducteurs, ce ne sont pas forcément des gens spirituels. Et dans les vieilles versions, et même dans de nouvelles versions, ils ont écrit cela, donc, nous sommes baptisés, je relis, hein, nous avons été tous baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Cette traduction est erronée. Et elle ouvre la porte à l'orgueil de presque tous les chrétiens charismatiques qui ont commencé à croire, et moi je me rappelle dans les années 60, c'est ce qu'on disait, c'était clairement dit, que eux seuls étaient membres du corps de Christ parce que eux seuls avaient reçu le baptême dans le Saint-Esprit. On peut dire, c'est écrit, c'est écrit. C'est écrit là. Verset 13, nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Donc, si vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit, vous ne faites pas partie du corps de Christ. Et ça, c'est une hérésie, mes frères et sœurs. C'est peut-être dans votre Bible, mais c'est une hérésie. C'est une horreur de dire ça. Regardez maintenant l'action de Jésus. Avec ses disciples, premièrement, il a passé du temps pour les enseigner. Ensuite, il les a envoyés faire des miracles et chasser des démons en son nom. Est-ce que à cette époque, les disciples étaient baptisés dans le Saint-Esprit? Non. À la fin de son ministère, Jésus a réuni ses disciples et il a soufflé sur eux, disant « Recevez le Saint-Esprit ». On va lire dans Jean, chapitre 20, verset 22. Jean 20, 22. Je lis. Que la paix soit avec vous tous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés leur seront pardonnés, ceux à qui vous les retiendrez seront retenus. Voilà. C'est seulement à la fin de son ministère. Question. Est-ce que les disciples avaient reçu le Saint-Esprit avant ce moment? Réponse. Non, puisque Jésus leur dit « recevez le Saint-Esprit ». Ça veut dire qu'ils ne l'avaient pas reçu. Autre question. Comment pouvaient-ils guérir les malades et chasser les démons sans avoir le Saint-Esprit? Guérir les malades au nom de Jésus-Christ et chasser les démons au nom de Jésus-Christ se fait, mes frères et sœurs, par le pouvoir de la foi. On va lire Matthieu chapitre 10, verset 1. Matthieu 10, 1. Jésus appela les 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser des esprits impurs et de guérir toute maladie et infirmité. Voici les noms des 12 apôtres, ils donnent toute la liste. Il leur dit, voilà, n'allez pas vers les non-juifs, etc., etc., etc. Lorsqu'on vous accueillera pas dans une ville, allez dans une autre. Enfin, il leur donne toutes sortes de recommandations. Et jusqu'au verset 42, voilà. Et il leur dit donc, je vous donne le pouvoir de le faire par la foi. Jésus leur dit que faire et comment faire, et c'est cela qui leur donne le pouvoir de la foi, parce que la foi est basée sur les paroles de Jésus. Quand Jésus vous dit quelque chose, quand il vous dit « voilà, je te donne le pouvoir de guérir les malades », tu le crois, tu y vas et tu les guéris en son nom. Rappelez-vous, ça c'était au début, mais ce n'est qu'à la fin de son ministère que Jésus leur a donné le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit. Donc ce n'était pas par la puissance du Saint-Esprit, c'était par leur foi. Bien sûr que c'est Jésus qui guérit, bien sûr, mais c'était leur foi. Alors ils sont partis deux à deux, avec les paroles de Jésus que vous trouvez donc dans Matthieu 10, 5 à 42, vous avez qu'à les lire, c'est ça qui leur a donné la foi, ce sont sur ces paroles qu'ils sont allés et qu'ils ont manifesté leur foi dans ce que Jésus avait dit qu'il pouvait faire et ce qu'il devait faire, ça leur a donné la foi. Il y a plein de pasteurs qui font des miracles au nom de Jésus par leur foi, mais pourtant, ils seront rejetés à la fin. Matthieu 7, 22. Je ne dis pas que tous les pasteurs qui font des miracles seront rejetés, mais je vous donne un exemple. On peut faire des miracles sans être... Matthieu 7, 22, simplement par la foi. Beaucoup me diront ce jour-là, mais Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton malin, en ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Mais quel mal ils ont commis de guérir les malades? Non! Mais simplement, ce qu'ils faisaient, c'était par la foi. Mais leur motivation n'était pas forcément de glorifier le nom de Jésus. Voilà pourquoi Dieu les mettra de côté. Maintenant, ce n'est pas le cas de tous ceux qui font les miracles. Chaque fois qu'on parle de miracles, alors on nous sert ce verset, mais oui, mais ce n'est pas la preuve que tu es un enfant de Dieu. Bien sûr que ce n'est pas la preuve qu'on est un enfant de Dieu. Mais par la foi, on peut faire des choses extraordinaires au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sans avoir reçu le Saint-Esprit et sans avoir été baptisé dans le Saint-Esprit. Donc voilà, réfléchissez sur ces choses. Les disciples reçurent des paroles qui leur ont donné la foi pour faire des miracles au nom de Jésus, et ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, Jésus n'ayant pas encore soufflé sur eux. Jésus n'a soufflé sur eux qu'à la fin de son ministère terrestre. Puis, après sa mort, après sa résurrection, après son ascension, Jésus réunit les siens et leur fait une promesse. On va lire ça dans Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. Versets 4 à 8. Donc Jésus est ressuscité. Il se présente à eux. Et au verset 4, on lit, alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Ah, attention, voilà. Alors, ils avaient reçu le Saint-Esprit, mais ils n'avaient pas été baptisés encore dans le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas été immergés dans le Saint-Esprit. C'est deux choses différentes. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Les disciples mettent toujours les pieds dans le plat. Et Jésus dit, « C'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. » Mais, et il revient à ce qu'il voulait dire, « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ok, et c'est le jour de la Pentecôte qu'ils ont été baptisés, immergés dans le Saint-Esprit. On est bien d'accord. Selon la promesse qui se trouve dans Actes chapitre 1, là, que Jésus vient de leur faire, ensuite il est monté au ciel, et puis le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés et ils ont reçu donc ce baptême dans le Saint-Esprit qu'on trouve dans Actes chapitre 2. Ils ont été immergés, c'est-à-dire baptisés, dans quoi? Dans le Saint-Esprit. Ok? Revenons à 1 Corinthiens 12. On revient à 1 Corinthiens 12. Et qu'est-ce que Ce verset mal traduit nous dit que nous avons été baptisés dans le corps de Christ. On le relit. En Corinthiens 12, verset 13. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Mal traduit. Réfléchissez. D'après ces théologiens traducteurs, ils ont été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, le corps de Christ. Ça ne peut pas être juste. Ça reviendrait à dire que tous nos frères et sœurs qui n'ont pas été baptisés dans le Saint-Esprit, les mormons, les pentecôtistes, tout ça, ne font pas partie du corps de Christ. Tous les baptistes, les protestants, tous ces gens-là, non, ils font pas partie du corps de Christ parce qu'ils n'ont pas été baptisés dans le Saint-Esprit. Mais c'est une hérésie, c'est une horreur sectaire. Cela à cause d'une mauvaise traduction. Maintenant, on va voir la bonne traduction. En effet, voilà ce que dit la bonne traduction. Je vous la lis, c'est dans la version de la Bible juive. La Bible juive complète, une nouvelle version de la Bible par David H. Stern. Voilà ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 12, 13. « En effet, c'est par un seul esprit que nous avons été immergés dans un seul corps. » Ah, c'est très différent. « Nous n'avons pas été baptisés dans l'esprit pour former un corps, mais c'est par le Saint-Esprit que nous avons été baptisés dans le corps, que nous avons été placés dans le corps, que nous avons été immergés dans le corps de Christ. » En effet, je répète, c'est par un seul esprit que nous avons été immergés dans un seul corps. C'est le Saint-Esprit, reçu lors de notre conversion, qui nous a immergés dans le corps de Christ. Lorsque nous nous sommes convertis, nous avons reçu l'Esprit. Nous ne pouvions pas dire avec certitude que Jésus-Christ était le Seigneur, mais à partir du moment où nous avons reçu le Saint-Esprit, il n'y avait plus aucun doute. Jésus-Christ est Seigneur. Nul ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Et à partir du moment où nous avons été convertis, nous avons reçu le Saint-Esprit et nous pouvons dire « Yeshua est le Seigneur ». Et cela, nous pouvons le dire uniquement que parce que le Saint-Esprit confirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes dans le corps de Christ. Nous faisons tous partie du même corps, le corps de Christ. De qui ? Le corps de Christ. Qui fait partie du corps de Christ ? Tous ceux qui croient en lui. Parce qu'on ne peut pas dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, 3. Oui, vous pouvez avoir un païen qui dit « Oui, je crois que le Jésus-Christ est le Seigneur. » Attends, il faut maintenant qu'il mette ses actes en ordre aussi avec ses paroles. Donc on discerne vite si c'est par le Saint-Esprit ou pas, si c'est du cinéma ou pas. Enfin, on ne peut pas dire avec certitude que Jésus-Christ est le Seigneur si on n'est pas converti, si on n'est pas né de nouveau. Alors je répète afin que vous compreniez bien, la voie par excellence pour manifester quelque chose qui vient du Saint-Esprit, c'est d'aimer. 1. On reçoit le Saint-Esprit lorsqu'on se convertit et qu'on peut dire avec foi, Jésus-Christ est mon Seigneur. 1 Corinthiens 12, 3. Ça, c'est la nouvelle naissance. À ce moment-là, vous naissez de l'Esprit. On va lire Jean chapitre 3. Vous allez voir. Jean chapitre 3. Voyons, où est-ce qu'il se cache ? Jean chapitre 3. On va le prendre là, parce que j'ai noté la référence. Jean chapitre 3. Voilà ce qui nous est dit au verset 5. En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il faut naître d'eau. Alors, les gens s'imaginent que c'est l'eau du baptême, le baptême de l'eau, dans l'eau. Non, c'est pas ça. C'est l'eau de la parole. Entendre la parole de la bonne nouvelle. Entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. À partir de là, nous sommes nés de l'eau de la parole. Deuxièmement, il faut naître de l'esprit. Cela, C'est l'œuvre de Dieu qui nous abreuve de son esprit et nous devenons une nouvelle créature. On va lire, parce qu'il faut quand même que je vous prouve que ce que je vous dis est vrai, Éphésiens 5, 25, 26. Éphésiens 5, 25, 26. Marie, c'est Paul qui parle. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, pour son Église, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Par l'eau de la parole. Il faut que vous naissiez d'eau. Il faut que vous soyez purifiés et lavés par l'eau de la parole. Quand la parole de Dieu a fait son œuvre en vous, qu'elle vous a convaincu, que le Saint-Esprit vous a convaincu que la parole est vraie, alors à ce moment-là, vous êtes né d'eau et le Saint-Esprit vient sur vous. Et vous, il souffle, Jésus souffle sur vous et vous recevez le Saint-Esprit et vous êtes né de nouveau. Si quelqu'un n'est pas né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est avec la parole et l'esprit. Mais la parole, c'est l'eau. Voilà pourquoi Jésus dit, il faut naître d'eau et d'esprit. Alors, évidemment, ça, je vous disais tout à l'heure, il faut un esprit de synthèse. C'est-à-dire qu'il faut connaître la Bible dans son ensemble pour pouvoir comprendre ce qu'elle veut dire. Parce que si vous prenez un texte tout seul, vous pouvez faire une doctrine avec, qui est fausse. Il faut que ça soit en harmonie avec l'ensemble. Or, quand Jésus parle de l'eau, là, il est en train de dire, il faut que vous naissiez de la parole et de l'esprit. Parce que c'est après avoir été purifié et lavé par l'eau de la parole que Dieu nous conduit dans la sainteté. Éphésiens chapitre 5, 25, 26. La doctrine qui affirme que nous naissons de nouveau par le baptême d'eau et par le baptême dans le Saint-Esprit est une hérésie. Je ne vais pas me faire des copains, tant pis. Nous naissons de nouveau parce que nous sommes lavés par l'eau de la parole, Éphésiens 5, 26, et par la réception de l'Esprit, comme dans Jean chapitre 20, 22, recevez le Saint-Esprit. Si je lis dans la version de Stern, Éphésiens 5, 26, voilà ce que ça donne. Éphésiens 5, 26, il dit, « Et vous, Marie, aimez vos épouses comme le Messie a aimé la communauté messianique, se livrant lui-même pour elle, afin de la mettre à part pour Dieu, la purifiant par l'immersion dans l'eau du mikvev. » Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que le mikvev? Eh bien, faisons un petit cours d'hébreu. Le mikvev, c'était un bassin ou une piscine où s'écoulait un flot d'eau douce, et le mikvev était utilisé dans le judaïsme orthodoxe pour la purification rituelle. Donc, c'est l'eau de la parole, c'est comme cette purification. Jésus n'est pas en train de parler du baptême d'eau, mais il est en train de parler de l'eau de la parole qui est aussi purificatrice que le bassin, le mikvev. On va regarder dans Tite 3.5, j'espère que je vais le trouver, Tite 3.5, il est dit dans Tite 3.5, où est-ce qu'il est? Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais il l'a fait conformément à sa compassion à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Le bain, c'est extraordinaire. Comment est-ce qu'on peut se tromper? C'est simplement par manque de connaissance. À travers le bain de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, Jean chapitre 3, si vous ne naissez d'eau et d'esprit, l'eau c'est la parole. À partir de la nouvelle naissance, alors nous pouvons être baptisés non dans le corps de Christ, parce que c'est déjà fait, mais dans le Saint-Esprit. Quand vous êtes né de nouveau, c'est que vous avez été né de nouveau par la parole de Dieu, que vous avez reçue, que vous avez cru, et par l'Esprit de Dieu qui vous pousse à dire Père, et vous pouvez croire que Jésus-Christ est Seigneur. Et là, à partir de là, vous pouvez être immergé dans le Saint-Esprit. Et ce baptême est une immersion dans la puissance. Jésus dit, vous recevrez une puissance. Non pas pour faire des miracles, on peut en faire sans être baptisé dans le Saint-Esprit, simplement par la foi. Mais pour être un témoin, on va lire Actes, chapitre 1. Verset 8, on le relit, parce qu'on l'a lu déjà tout à l'heure, on le relit. Ne pensez pas que c'est compliqué, c'est différent de ce que vous avez peut-être entendu jusqu'à maintenant, mais ça n'est pas compliqué du tout. Actes, chapitre 1. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, ce baptême est une immersion dans la puissance. Vous recevrez une puissance, pas pour faire des miracles, mais pour être témoin, ce qu'on vient de lire. Pourquoi cette puissance ne nous sert-elle pas à faire des miracles? Parce que les miracles se font par la puissance de notre foi dans les paroles de Jésus. Nous recevons cette puissance pour être constant. Parce que être témoin, ça fatigue beaucoup. Jésus le savait. Souvenez-vous, un jour il a dit, pendant qu'il exerçait son ministère, « Une force est sortie de moi ». C'est dans Luc, chapitre 8, verset 46. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est l'histoire de Jésus est en train de marcher dans une ville, et puis voilà qu'une femme le touche, et puis elle est guérie. Et c'est dans Luc 8, verset 46, alors je lis, Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. » Une force est sortie de lui. Quelle force? Cette puissance! Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Eh bien, cette puissance était en Jésus, et elle sortait de lui pour guérir les malades. Et ça l'affaiblissait. Une force est sortie de moi. Quand une force sort de vous, ça vous épuise. Alors, vous aurez besoin, pour être un témoin puissant, d'être renouvelé dans cette immersion dans le Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 4, on trouve un exemple comme ça, on voit les disciples qui se réunissent, je vous lis le passage, c'est Acte 4, 31, il est dit, « Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, annonçaient la parole avec assurance. » Voilà, j'explique. Ils avaient été victimes de persécutions, ils ont été emprisonnés, ils ont eu des problèmes, ils ont été chagrinés, ils ont eu des difficultés. Épuisant. Dans le ministère, c'est épuisant le ministère. Les gens pensent qu'on fait rien du tout de la journée. Non, c'est fatigant. Il y a une force qui sort de nous. Et alors, on a besoin d'être renouvelé. Parce que manifester la foi, ça nous épuise. Et on a besoin d'être renouvelé. Et voilà pourquoi on est baptisé dans le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins, des témoins puissants, des témoins capables, des témoins qui peuvent, comme on l'a dit là, verset, prêcher, annoncer avec assurance. Vendredi prochain, on continuera cette étude au sujet des dons, des services et des actions, mais je devais mettre cela au clair avant toute chose. On ne peut pas commencer à manifester les dons dans l'Église en ne sachant pas ce que c'est. Vous savez, comme je vous disais dans une de mes dernières prédications, tout est régi par des lois. Et il y a des lois spirituelles. Et si des lois spirituelles ne sont pas observées, alors évidemment il ne se passe rien, ou très peu de choses, ou de temps en temps. Mais pour être puissant constamment, pour être renouvelé, pour être un témoin qui parle avec assurance et qui a du résultat, et qui a une foi qui est constante, il faut savoir à qui nous avons affaire quand nous avons affaire au Saint-Esprit, à ce dont nous avons affaire quand nous parlons de la foi, afin de ne pas manifester des choses de la foi sans être guidé par le Saint-Esprit. C'est tout un travail. Si vous demandiez à un scientifique atomiste de toucher dans son laboratoire aux choses qui sont là, il vous dirait non, vous connaissez pas, n'y touchez pas. Eh bien, ça devrait être la même chose dans l'Église. On ne devrait pas permettre à des petits jeunes convertis qui ne savent rien d'imposer les mains avec précipitation, de faire. Non, il faut étudier, il faut bien comprendre. Un savant atomiste qui se permettrait de ne pas être prudent au sujet des lois de l'atome, de l'énergie et de tous ces choses, il ferait péter son laboratoire en 3 minutes. Eh bien, très souvent, des chrétiens abandonnent ou sont découragés parce qu'ils ont agi, mais ils n'ont pas, sans connaissance. Ils ne savaient pas, on ne leur a pas enseigné. Alors ça marche une fois, deux fois, puis après ça ne marche plus, puis ils disent, mais pourquoi, je ne comprends pas, enfin bon, est-ce que j'ai attristé le Saint-Esprit, enfin, ça, il y a un gros mélange, une grosse confusion. Donc ce que je veux, c'est que vous soyez dans une assurance et non pas dans une confusion. Voilà pourquoi je prends du temps pour vous expliquer ces choses. J'espère qu'elles vont être entendues et que cela aidera certains d'entre vous. Merci Seigneur. Merci Jésus de bénir mes frères et sœurs et de les aider comme tu m'as aidé, de les bénir comme tu m'as béni, de permettre qu'ils aient un ministère magnifique comme j'ai eu un ministère magnifique et comme je continue à avoir un ministère magnifique. Je te rends grâce Seigneur pour cela et te prie que vraiment ils puissent se faire des miracles pour glorifier ton nom et que chacun puisse être fortifié et que alors qu'il va pour témoigner et que des forces sortent de lui, il puisse être renouvelé par le Saint-Esprit, qui est une puissance survenant sur nous. Merci Jésus. Amen. Allez, au revoir, Dieu vous garde. Au revoir.